très très proche. J'ai reçu un message de Zoom qui m'a un petit peu agressé. Ok,
Pardon,
j'ai compris.
oui, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on enregistre la vidéo?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Pour ceux qui seraient absents. Merci.
Évidemment, évidemment. Et donc, cette évangélisation est conduite en fait par l'Esprit Saint de A à Z, et en même temps, bon, bah, il y a des problèmes humains, matériels très concrets qui se posent aux chrétiens de l'époque. Ils vont bien se rendre compte que il ne s'agira pas seulement d'annoncer, brut de décoffrage, la foi. Et donc, puisqu'on parle de l'évangélisation dans l'Antiquité, eh bien moi je vous propose de revenir vraiment à l'origine de l'évangélisation, c'est-à-dire à l'Évangile et à l'exemple du Christ lui-même. Nous sommes la religion de l'incarnation et il y a des conséquences sociales, des conséquences humaines dans la vie de tous les jours qui sont très importantes, des conséquences de ce principe. C'est pour ça que je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lire cet ouvrage. Ça se lit lentement, mais il faut le faire. Mais vous l'avez certainement déjà fait. Demain, la chrétienté de Don Gérard, le fondateur de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou, livre sur lequel je me suis appuyé pour cette conférence, entre autres. Nous sommes donc la religion de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. La chose la plus incroyable, disait l'un des astronautes américains qui a marché sur la Lune, ce n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur Terre. Et oui, c'est ça en fait le plus incroyable. Et Don Gérard disait dans cet ouvrage Demain la chrétienté, enfin il a écrit, Jésus est un homme Dieu qui a grandi relié à une terre, à une religion, la religion hébraïque, à un travail d'artisan, lui qui est fils de charpentier. Il est lié à une petite patrie qu'il a regardée, qu'il a arpentée, qu'il a aimée avec tendresse et sur les malheurs de laquelle il a pleuré. Don Gérard fait référence à ce passage de l'Évangile selon Saint-Luc où on voit Jésus-Christ, vous savez, pleurer sur Jérusalem et dire Jérusalem, ô Jérusalem, il ne restera plus de toi pierre sur pierre. Donc notre Seigneur prie sur la chute de la capitale de son royaume, donc sur la chute de sa patrie. Il anticipe le ravage de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, évidemment, par les Romains. Et donc, notre Dieu est un Dieu incarné qui va suivre tous les préceptes de la société hébraïque de son époque. On le voit aussi dans l'Évangile, pardon, j'ai oublié la référence précise, mais il est précisé dans l'Évangile qu'il attend. Dans la synagogue pour la première fois qu'il doit lire la Torah, parce que tous les Juifs devaient lire la Torah, arriver à l'âge adulte, à la tribune, au pupitre de la synagogue, il attend que les anciens lui donnent les Saintes Écritures entre les mains. Donc la première vertu que Jésus va mettre en œuvre au début de son ministère public, c'est l'obéissance à l'autorité religieuse. Il est totalement incarné. C'est un Juif pieux qui respecte toutes les étapes rituelles. Tout Dieu qu'il est, il respecte toutes les étapes rituelles qui lui permettent bien de bien s'incarner totalement dans cette nature humaine dont il a pris toutes les souffrances, hein, on le sait, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, il était confronté au mal, voilà, en tant qu'homme. Il a embrassé toutes les turpitudes de la nature humaine. Il a exercé un métier notamment. Ça, c'est la base de l'évangélisation chrétienne. Vraiment, c'est très, très, très important. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui nous permet de comprendre aussi la facilité avec laquelle notre Seigneur, par exemple, apostrophe Matthieu. Rappelez-vous, quel était le métier de Matthieu? C'était de prélever l'impôt pour le compte des Romains. Et c'est ce que les Juifs appelaient, c'est une certaine catégorie de publicain. C'est celui qui pêche en public, c'est le pêcheur public, parce qu'il collabore avec l'occupant et il le fait en public. C'est un collaborateur à visage découvert. Bon, Jésus va l'attraper par l'oreille et lui dire, tu viens avec moi. Marie-Madeleine, la pécheresse, le centurion romain, on voit bien que notre Seigneur prend les hommes où ils sont et ne leur demande pas de changer de travail. Il leur demande de le suivre, bien sûr. Mais il leur demande pas de changer de travail, il leur fait pas un discours sur la justice sociale, il ne criminalise pas les Romains, il prend les hommes où ils sont, dans leur métier, pour en tirer quelque chose. Donc c'est pas seulement un Dieu sauveur qui, tout en restant là-haut dans les nuées, nous envoie sa grâce pour sortir du péché, il aurait pu. Il aurait pu, il est tout puissant, il aurait pu se contenter de nous envoyer sa grâce. Et puis, boum, une création nouvelle se fait à l'instant où il l'exige. Mais non, il a décidé de s'incarner et de venir nous parler en tête à tête. C'est un Dieu qui prend chair, qui prend notre chair. Et donc, Cela entraîne aussi toute une série d'actions concrètes, d'actions rituelles qu'il va pratiquer dans le cadre de son évangélisation. Encore une fois, hein, le modèle de tout missionnaire, c'est le Christ. Donc il est essentiel de partir du Christ, puisque d'ailleurs toute notre religion, c'est l'imitation du Christ, hein, en toute chose. Et donc son évangélisation, vous le savez, elle va se manifester au travers de miracles publics. Ou s'ils ne sont pas publics, parce que vous savez qu'à un certain moment, le Christ réclame le silence de la personne qu'il a sauvée, mais du moins, évidemment, ces miracles sont destinés à être racontés, puisque nous les lisons dans la Bible, qui est un livre écrit par des hommes, mais sous la dictée de l'Esprit Saint. Et donc, ces miracles pédagogiques, qui visent à montrer toute la puissance de Dieu, ben, sont destinés à être racontés plus tard. Je vous prends Marc chapitre 33. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Est-ce qu'on a bien mesuré à quel point c'est absolument incroyable? Enfin, il est Dieu. Il lui suffit de penser à la guérison de cette personne qui est sourde hein, pour qu'elle soit guérie. Mais non, enfin, il va passer par une série de gestes propre à la nature humaine, propre à la religion, des gestes très précis. C'est quand même incroyable le souci du détail de l'écriture. Il touche la langue avec sa propre salive, il lui met les doigts dans les oreilles, il lève les yeux au ciel, il soupire, il dit Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Donc, il fait un rituel, comme le rituel du baptême, comme le rituel d'exorcisme à l'intérieur du baptême, par exemple, avec le sel sur les lèvres de l'enfant, avec l'usage de l'huile, etc. Donc, Dieu Tout-Puissant, entre guillemets, s'abaisse, si j'ose dire, moi, le terme est imparfait, hein, je m'en excuse, à utiliser des rituels parfaitement humains dont il n'a pas besoin. Il n'en a pas besoin pour manifester sa puissance. Ça, je pense que c'est fondamental. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le bon Dieu, il a une pédagogie des sens et une pédagogie des cinq sens. Il parle à nos cinq sens. Il parle à notre nature humaine. Il aurait pu jeter une lumière dans le ciel. Il aurait pu se passer quelque chose d'incroyable comme une transfiguration, mais non. En fait, il réalise une action purement rituelle, totalement comparable à ce qu'on peut retrouver dans la religion juive ou dans d'autres religions tout au long de l'histoire. Donc là, on saisit bien quand même à quel point l'incarnation est quelque chose de totalement embrassé par le bon Dieu. C'est pas un artifice, c'est pas je me déguise en homme pour être plus près de vous par pitié ou autre. Non, c'est qu'il embrasse totalement la nature humaine au point de l'incarner, même pour manifester sa puissance. Voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux en fait à tous les moments de la vie du Christ. Il y a du rite, le rite. Le rite, le rite. Et ça, je pense que c'est fondamental pour parler d'évangélisation. J'y reviendrai. De la même manière, Jésus se laisse baigner les pieds de parfum par Marie-Madeleine. Alors, moi, qui ai été converti par Marie-Madeleine, à l'âge adulte, je peux vous dire que c'est mon passage favori de l'évangile. Et il la prend en exemple à l'égard du pharisien. Vous savez, il est invité à manger chez un pharisien. Et le pharisien lui dit, non, mais attends, c'est une mauvaise femme, de mauvaise vertu, enfin, qu'est-ce que tu fais? Donc bon, le pharisien, c'est quand même, comme on dit, le bourgeois qui a des manières, mais qui n'a pas d'éducation, quoi, parce qu'il est en fait très impoli, très, très impoli. Et Jésus lui répond, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Alors il faut savoir que dans la société hébraïque de l'époque, il était normal de laver les pieds, comme on lave les mains à l'entrée du monastère bénédictin pour les aux inconnus. Il était normal de laver les pieds de l'étranger, de l'invité. Il n'était pas normal de laver les pieds avec les larmes d'une pécheresse et de laver les pieds avec du parfum. Donc cette scène est incroyable. D'ailleurs, il fait aussi une remarque un petit peu. Enfin, il inflige une correction à Marthe. Vous savez, Marthe, on l'imagine en train de faire la vaisselle à côté, pendant que Marie-Madeleine se repaît de la parole du divin maître. Et il lance à Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Elle, donc Madeleine, a pris la meilleure part. Alors ça, c'est fondamental. Pourquoi elle a pris la meilleure part? Parce qu'elle est dans l'adoration. Mais oui, que l'adoration, Marie-Madeleine le montre bien, c'est pas être en extase, dévisser les ampoules, se laisser porter par le mouvement de la foule, parler des langues bizarres. Non, en fait, c'est utiliser son corps, mais de manière ordonnée, de manière raisonnée. Évidemment qu'il y a de l'émotion, il y a une tension dramatique incroyable, elle pleure tous ses péchés, mais tous ses péchés avec ses larmes viennent laver les pieds du futur crucifié à l'endroit même où les clous seront plantés 3 ans plus tard, ou un peu moins. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc, vous voyez que là, le Christ se laisse adorer, il se laisse vénérer. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez répondre aux témoins de Jéhovah qui viennent sonner chez vous et qui vous disent: Ah ben non, le Christ était juste un prophète, un messager. Non, non, il n'y a qu'un Dieu qui se laisse vénérer comme ça. Ça, c'est clair. Donc, il se laisse vénérer par Marie-Madeleine. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, Marie-Madeleine, en fait, c'est la première cathotradie, en fait, parce qu'elle va utiliser cette beauté du rite pour la mettre tout au service de Dieu. Et puis, on peut l'opposer à Judas. Rappelez-vous la parole de Judas qui dit Seigneur, tout cet argent dépensé pour des parfums, etc., est-ce que ce serait pas mieux de le laisser aux pauvres? Bon, ben, en fait, pour moi, Judas, c'est un petit peu le premier moderniste. C'est celui qui dit tous les objets un petit peu extérieurs du rite, les ornements liturgiques, etc. Bon, en fait, ça serait mieux de les vendre pour le donner à des petits Africains pour qu'ils construisent un puits, plutôt que de les mettre au service de la grandeur de Dieu. Ben, Marie-Madeleine, c'est tout l'inverse. Pour Dieu, il n'y a rien de trop beau. Et Marie-Madeleine, elle donne toutes ses larmes au Seigneur. Voilà. C'est une scène incroyable. Je parle aussi, je pense aussi au cas de la femme hémorroïs qui touche le manteau du Christ. Ta foi t'a sauvée. Ben oui, parce que notre Seigneur, c'est pas pardonnez-moi, un bête ritualiste. Il s'agit pas juste d'observer une succession de gestes bien programmés. Oui, il se laisse adorer, il se laisse toucher le manteau. Il aurait pu se retourner vers la femme hémorroïs, je veux dire non mais c'est bon, arrête de m'adorer, je suis pas quelqu'un d'incroyable. Il aurait pu faire, pardon, mais comme notre Saint-Père le Pape, vous savez, il y a 2 ou 3 ans ou 4, il a refusé de laisser les fidèles baiser son anneau pontifical. Ça a tourné en boucle sur Internet, on le voit retirer sa main. Bon, c'est une scène qui m'attriste. Le Christ, lui, se laisse toucher. Parce qu'il sait que dans l'adoration, dans la vénération des petits, eh bien, il y a tout l'amour des fidèles et qu'on ne peut pas mépriser ça parce que c'est le moyen par lequel les hommes, qu'ils soient d'ailleurs riches ou pauvres, peu importe, hein, je parle des petits, mais de tous, eh bien, arrivent à Dieu. Ils ont besoin de montrer, parce qu'on est incarné, nous aussi, on est un esprit dans un corps, de montrer leur amour par des gestes très précis. C'est absolument vital. Regardez n'importe quelle star qui va se faire toucher par ses admirateurs, demander un autographe, une photo, on va lui tirer la veste, on va se précipiter pour assister au couronnement du roi d'Angleterre, etc. Finalement, on pourrait dire à toutes les personnes qui moquent un peu la Sainte Messe, nos rites, tous ceux qui disent non, mais c'est pas la peine, je peux prier Dieu chez moi tout seul, ben, il faut leur répondre ok, mais dans ce cas-là, pourquoi tu vas à un concert de machin? Pourquoi tu vas au couronnement de trucs? Est-ce que tu as besoin de ça pour leur montrer ton amour? Ben, ils vont vous répondre, ben oui, j'ai besoin de ça, en fait, j'ai besoin de le montrer, j'ai besoin d'en vivre. Ben, nous, c'est pareil. Par le rite, on vit cet amour et le Christ respecte cela dans la nature humaine. Il le respecte d'autant mieux qu'il l'a créé. Donc, il sait de quoi il s'agit. Et donc, il donne beaucoup d'importance aux signes, aux rites. Un autre cas, pardon, je crois que je vais un peu vite, mais comme je me répète, ça va, je crois. Vous me dites hein, si je suis un peu trop rapide. Je vous invite à lire, peut-être pas tout de suite, mais dans un an ou deux peut-être, Réflexion sur la liturgie de Don Gérard. Il écrit. Vous m'entendez bien ou pas là?
Oui, on vous entend, on vous entend très bien.
Ok, d'accord. Il écrit que le rite, c'est une pensée en acte. C'est un rite, c'est une pensée en acte. La pensée, ça vous pouvez le noter si vous voulez, une pensée en acte. C'est la pensée humaine incarnée dans un geste. C'est pourquoi, écrit-il, un changement de rite peut déclencher une guerre, un schisme ou une hérésie. Un rite, c'est une pensée en acte, c'est une pensée humaine incarnée dans un geste, c'est pourquoi un changement de rite peut déclencher une guerre, un schisme ou une hérésie. Vous le vivez tous les jours quand vous serrez la main à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de le faire, mais quand on vous tend une main, bien vous la saisissez. C'est la même chose quand vous vous habillez convenablement pour aller à la messe. C'est la même chose quand vous coiffez votre enfant. En fait, on pratique des rites au quotidien. C'est quelque chose qui nous structure. C'est absolument fondamental. Mais attention, c'est pas qu'un vêtement le rite. C'est pas juste quelque chose qui doit nous attirer vers le beau et puis une fois qu'on l'enlève, c'est bon, c'est fini, on n'en a plus besoin. Non, c'est pas juste un vêtement pour habiller le sacré, un peu comme la chasuble d'un prêtre. C'est un canal. C'est mieux qu'un vêtement, c'est un canal. C'est quelque chose qui nous fait passer la grâce. Pendant que vous pratiquez le rite, ça fortifie en vous la foi. C'est encore Don Gérard qui dit, quand on s'agenouille physiquement, on se met sur ses genoux, mais en fait, notre cœur s'agenouille devant Dieu. En fait, c'est ce geste, il va imprimer en nous un geste de notre foi. Il y a un geste physique, mais il y a un geste de l'âme aussi. Donc ça, c'est très important. Alors, je vous lis la suite du texte, mais je ne vous invite pas à le noter, c'est un peu long. On oublie que les rites furent d'abord le grand poème sauvage de l'humanité quand elle était dans l'enfance. Il parle de la préhistoire, qui a dansé la théologie, c'est-à-dire qui a exprimé sa vision du divin, qui a exprimé sa vision du monde en dansant. En fait, ce que veut dire Don Gérard, c'est par des gestes divers et variés, avant de l'écrire, avant de la conceptualiser. Évidemment, on n'avait pas les moyens intellectuels à l'époque de la conceptualiser. Les rites, c'est le grand poème de l'humanité dans l'enfance qui a dansé sa théologie. Alors, il vous donne un exemple, Don Gérard, il est très pratique. Avant même de recevoir de nos ancêtres, il se met dans la tête d'un archéologue qui fouille comme ça un vieux village gaulois. Et il se dit, avant même de recevoir de nos ancêtres une inscription, une belle fresque peinte sur un mur, avant même de recevoir un hiéroglyphe, c'est-à-dire des signes écrits qui expliquent, enfin pardon, qui expriment des idées, ben avant tout ça, on a découvert, nous les historiens, nous découvrons dans les vieux rites funéraires, donc la manière dont on enterrait les morts, le premier témoignage d'une croyance dans l'au-delà. Quel est ce premier témoignage? Ben, la façon dont on enterrait les hommes. Le défunt avait les jambes repliées sous le ventre à la manière du fœtus. Donc il est en chien de fusil comme ça, et il est enterré tel quel. Et Don Gérard dit, c'est un petit peu comme s'il était de nouveau confié à la terre-mère comme une semence d'éternité. C'est-à-dire qu'il vient de la terre, il est rendu à la terre dans une position d'enfant. Bon, ben ça montre bien le fondement du rite, à quel point c'est important pour l'humanité, à quel point le Christ a embrassé cela durant sa vie sur terre. J'aurais pu vous parler du discours sur la montagne, mais là, ça m'aurait amené à faire un discours, enfin, un exposé un peu théologique et donc de sortir un peu de mon sujet, de sortir de l'histoire. Donc, je laisse ça volontiers au Père François de Sales. En revanche, je vous recommande, je peux témoigner que ça a vraiment fortifié ma foi, l'Évangile à bras le corps. L'Évangile à bras le corps sur YouTube, les vidéos de l'abbé Laguéry, c'est remarquable. L'Évangile à bras le corps. Chaque vidéo fait entre 30 minutes et 1 heure, c'est assez variable. Il y en a une soixantaine, donc vous en avez pour un moment. Mais c'est fabuleux, quoi. Il rentre dans l'histoire, mais d'une manière qui n'est pas universitaire, pédante, une manière qui est très vivante, parfois assez humoristique, légère, claire, simple. L'Évangile à bras le corps, c'est qu'il prend l'Évangile à bras le corps. Il ne le surinterprète pas, il le met en perspective. Donc c'est très intéressant. Bon, maintenant, après cette introduction nécessaire, vous allez voir qu'on va revenir sur le rite. Moi, c'est un peu mon fil rouge de toute mon intervention. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de ça, les chrétiens dans l'Empire romain. Les chrétiens sont comme un poisson dans l'eau dans l'Empire romain. Et un poisson dans l'eau, mais dans l'eau, il y a des vagues, dans l'eau, il y a des prédateurs. Un poisson dans l'eau, ça ne veut pas dire qu'on est à l'aise dans ce monde-là, mais ça veut dire qu'on y vit comme les autres, et je vais vous montrer comment. D'abord, il faut savoir que les chrétiens vont se répandre partout où existaient des diasporas, des communautés juives exilées. Et encore plus à partir de 70, quand le temple de Jérusalem est pris, quand Jérusalem est saccagé, les juifs vont se répandre encore plus. Et puis, dans ce départ des juifs, ben, en fait, il y avait aussi beaucoup de chrétiens, évidemment. Là, quand je parle des juifs, c'est au sens de peuple, hein, c'est pas au sens de religion, parce qu'il y avait encore beaucoup de chrétiens en Judée. Donc, les juifs de religion juive et les juifs de religion chrétienne vont partir ensemble. Mais évidemment, le début de l'évangélisation, c'est pas ça. C'est avant, c'est Saint Paul qui arrive à Rome, à la fin des années 50, peut-être en 58. quand il arrive, il rencontre déjà des chrétiens, on peut le voir dans ses écrits. Les chrétiens sont déjà implantés dans les cités. Donc en fait, on a plein de chrétiens implantés dans les cités principales de l'Empire romain, dans les grandes villes, moins de 20 ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le mot même de chrétien dans les années 50 existait déjà, on en a retrouvé des traces pour qualifier les partisans de Jésus-Christ. Le chrétien, c'est le double du Christ, en fait, dans l'esprit des Romains. Ce sont des Christs. Alors, vous avez tous certainement déjà entendu l'idée selon laquelle les premiers chrétiens partageaient absolument tout, partage total, partage des biens, dans une logique égalitaire. Il va instaurer, enfin pardon, bon, alors ça c'est vrai, mais Saint Paul va un petit peu restreindre cette tendance-là parce que en fait il va considérer que ce partage total des biens, donc de la maison, de la nourriture, etc., risque de marginaliser le chrétien au sein de l'Empire romain, en gros, de le faire passer pour des témoins de Jéhovah à nos yeux aujourd'hui, quoi, pour des mormons, pour des fous. Et donc Saint Paul est un pragmatique. Saint Paul est un pragmatique. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il invente la quête. Ben oui, en fait, le premier acte de gouvernement de Saint Paul, c'est d'inventer la quête. Vous voyez, en fait, la base, c'est quand même l'argent, hein. Si on n'a pas la main sur les ressources financières d'une structure, on va pas très loin. Que ce soit diriger une école, une mairie, une entreprise, un pays, ou la communauté des premiers chrétiens, ben, en fait, la première question qui se pose, c'est de quoi on vit et de quoi vit l'Église. Vous voyez que Saint Paul, ah ben, c'était un bon tradit, comme Marie-Madeleine, hein, c'était pas un moderniste comme Judas. Donc, Saint Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il instaure le don régulier. Donc, on doit donner une partie de son argent chaque mois. À quelle occasion? Bah, à l'occasion, pardon, des assemblées dominicales pendant la messe. Donc, ça date de Saint Paul. Les communautés vont vivre en partie de cette quête. Mais comme je vous l'ai dit, chacun des membres de la communauté chrétienne ne sont pas des marginaux. Ils ont un métier. Ou alors ils sont esclaves. On verra aussi plus tard qu'ils ont des esclaves, hein. Je reviendrai sur la question de l'esclavage. C'est vachement important. Il ne faut pas être simpliste là-dessus, hein. J'y reviendrai. Donc en fait, le trait saillant, le trait important de la vie des premiers chrétiens, c'est qu'ils sont insérés dans la vie économique. Voilà, les premiers chrétiens, ce n'est pas des punks chiens. En fait, les premiers chrétiens, ils avaient un travail. Et ils cultivaient cette vertu du travail. Je vous lis l'extrait de la lettre à Diognète. Alors, c'est une lettre anonyme, écrite par un chrétien des premiers temps. Deuxième siècle, je crois, si je ne me trompe pas. La lettre à Diognète. Ouais, deuxième siècle. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes, ni par le pays. Donc, ils ne se distinguent pas des autres hommes par le pays. Ça veut dire qu'ils sont déjà intégrés dans le pays où ils vivent. Peut-être qu'ils y sont nés déjà. On est au deuxième siècle, hein, donc on est entre 101 et 200. Ils ne se distinguent pas non plus des autres hommes par le langage. Donc, ils parlent la même langue que les autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à l'hébreu ou à l'araméen. Enfin, c'est important quand même de le savoir. Ils ne se distinguent pas par le... Ils se distinguent pas non plus par le vêtement. Donc, ils s'habillent comme les autres. Ils n'habitent pas des villes à eux. Ils n'habitent pas dans des ghettos. Hein. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie, pardon, n'a rien de singulier. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine, c'est-à-dire d'une idéologie où on essaie de prouver la vérité par A plus B. Non, ils se répartissent dans les cités grecques et barbares. Donc, je pense que la lettre a été écrite par quelqu'un de l'Orient, hein, visiblement, parce qu'il parle des cités grecques et barbares, donc en dehors du monde grec, en dehors de l'Empire romain. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements. Donc en fait, un juif d'Alexandrie, il s'habille comme un Égyptien. Un juif de Rome, il s'habille comme un Romain, etc. Enfin, un chrétien, pardon, un chrétien de Rome, un chrétien d'Alexandrie. Ils se conforment aux usages locaux, donc aux habitudes locales pour la nourriture, pour la manière de vivre, tout en montrant, en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Pourquoi paradoxal? Parce qu'ils sont à la fois parfaitement intégrés et parfaitement radicaux dans la mesure où ils se donnent les uns aux autres. Et c'est à ça qu'on les reconnaît, hein. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Ça, je pense que c'est une leçon qu'on peut retenir pour maintenant. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Accepter le monde, bah oui. En fait, les chrétiens ne sont pas de ce monde, mais ils sont dans le monde. Et donc, ils acceptent notamment l'esclavage. Je vous renvoie à cet épisode méconnu où Paul renvoie un esclave qui s'est réfugié chez lui. Oui, Paul l'apôtre, il y a un esclave qui s'est réfugié chez lui. On l'appelle Onésime. C'est un saint catholique qui est dans le calendrier liturgique. Hein. Onésime, ou Onésime, pardon, Onésime, Onesime. Il le renvoie à son propriétaire qui s'appelle Philémon, parce que Onésime avait fui. Mais il l'envoie avec une lettre. Donc Onésime, en fait, accepte de revenir chez Philémon, mais il revient avec une lettre de saint Paul. La prière que je vous adresse est pour mon fils Onésime, que j'ai enfanté dans mes chaînes. Que j'ai enfanté dans mes chaînes. C'est ce que j'ai moi-même. Bon, je pense que saint Paul, il ne fait pas appel qu'au bon sentiment de Philémon. Je pense qu'il a quand même une autorité morale importante sur cette chrétienté en gestation. Et il s'attend quand même à ce que cela porte un peu de fruits et que Philémon se dise, ouais, en fait, ça craint si je traite Onésime un petit peu mal. Donc, je vais suivre quand même la recommandation de saint Paul. Mais il ne s'agit pas que d'autorité ou de menace. Hein. Je vous le renvoie, recevez-le comme si c'était moi-même. Et non plus comme un esclave, mais comme un esclave devenu un frère. Ah, mais alors ça, c'est crucial. Bon, ben, je continue. J'avais pensé d'abord à le garder auprès de moi. C'est génial, on a Paul qui donne un peu ses états d'âme, qui raconte comment ça s'est passé. Mais je n'ai rien voulu faire sans votre consentement. Donc, validation totale de l'esclavage par saint Paul. Hein. S'il vous a fait du tort ou qu'il vous est redevable de quelque chose, mettez-le à mon compte. C'est moi, Paul, qui vous le rendrai. Alors ça, c'est fondamental. Les esclaves ne sont pas affranchis par le christianisme, mais ils sont considérés comme des frères. C'est-à-dire que plutôt que de prétendre changer la société par des décrets, avec des lois qui du jour au lendemain changent tout, non, le chrétien, et ça c'est un point très important de l'évangélisation, il va faire appel à ce qu'il y a de bon dans le cœur des païens. Il va les faire raisonner, il va leur parler, essayer de les convaincre. Bon, alors je vous dis ça, mais peut-être que Philémon était chrétien en fait, hein. Il n'est pas sûr qu'il soit païen, j'ai pas l'information. Mais ça c'est fondamental. Changer le cœur des hommes qui habitent ce monde païen, des puissants dans ce monde, et après on changera les lois. Alors attention, dans ce que je viens de dire, il y a de la mesure. Ça ne veut pas dire que pour christianiser une société, il faut juste changer les cœurs, c'est-à-dire parler aux gens dans la rue, et puis s'abstenir de s'engager, notamment en politique, ou d'essayer de faire changer les choses au niveau de l'État. Parce que vous allez voir que les chrétiens, après, ils vont développer une autre stratégie qui est complémentaire. Ils vont vouloir changer les choses au niveau politique. Donc ça ne s'oppose pas. Mais là, dans les tout premiers temps de l'évangélisation, saint Paul, il veut changer les cœurs. On est vraiment dans les tout premiers temps de l'évangélisation. Voilà. Et puis, on est aussi dans un contexte romain, dans un contexte gréco-romain, où, entre guillemets, les chrétiens arrivent dans des civilisations qui sont raisonnables. Il n'y a pas de sacrifice humain, il n'y a pas, je ne sais pas moi, de culture de l'inceste ou de trucs vraiment dégueulasses, totalement contraires à la loi naturelle. Bon, alors un petit peu quand même, hein, faut savoir que les Romains abandonnaient leurs enfants quand ils le refusaient à la naissance sur un tas de poubelles. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'était des modèles de vertu et qu'ils étaient tout prêts à devenir chrétiens, les doigts dans le nez. Non. Mais on n'est pas dans un modèle comme le modèle indien dont je vous parlerai dans ma troisième conférence où là, ça n'a rien à voir. Donc attention, là, je vous décris une réalité historique. J'essaye de tirer un peu des leçons en temporel, mais c'est un contexte historique particulier, l'Empire romain. Ce n'est pas les Aztèques qui tuaient 20 000 personnes par an du haut de leur pyramide. Ça n'a rien à voir. Les peuples sont très différents et donc les chrétiens ne vont pas parler de la même manière à tous les peuples. Et c'est pour ça que l'histoire de l'évangélisation, elle est si passionnante. Et elle nous appelle à du pragmatisme. Alors, on y va. Le modèle antique romain, il est totalement reconnu, vous voyez, par Paul. Rappelez-vous que Paul, il échappe à la persécution. Je ne sais plus si c'est en Judée ou ailleurs, mais il est menacé de mort et il rappelle qu'il est citoyen romain. Et c'est son appartenance à la citoyenneté romaine qui le sauve de la mort. Bon, voilà. Donc, Paul, il façonne le modèle romain. Il essaye d'exprimer ce modèle romain sous la forme des valeurs chrétiennes, de tirer ce qu'il y a de bon là-dedans et de le baptiser. Et en fait, l'essence de la missiologie, du travail missionnaire, c'est ça. C'est de prendre ce qu'il y a bon dans, ce qu'il y a de bon dans la nature humaine, dans les cultures non chrétiennes, de le conserver pour le hisser vers l'admiration du Créateur. Un petit peu comme, comme Saint Paul lui-même à Athènes. Rappelez-vous, dans la Sainte Écriture, il raconte qu'il passe devant une communauté de païens. Et en fait, il voit un autel dans un temple païen dédié au dieu inconnu. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va voir les païens et il dit, ouais, ben, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je sais qui est le dieu inconnu et je vais vous en parler. Ce dieu inconnu, en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ, seul vrai dieu et vrai homme. Donc ça, c'est la pédagogie chrétienne des missionnaires. Partir de la culture vécue des peuples et essayer de faire le lien avec la loi chrétienne, avec la foi chrétienne. Parce que toutes ces cultures, toutes ces différences entre les peuples, elles sont bonnes, en fait, pour le monde. C'est le bon Dieu qui l'a voulu en détruisant la tour de Babel dans le livre de la Genèse. Vous savez, les hommes orgueilleux, pour être au niveau de Dieu, créent une tour de Babel. Le bon Dieu les disperse et donc il crée ainsi les races, les nations, les peuples, les cultures, les langues. Et cette diversité au niveau mondial, elle est bonne. C'est la raison pour laquelle l'uniformisation de nos modes de vie, le fait qu'on est en train de devenir des Américains, en fait, c'est, à mon avis, une abomination au regard de Dieu. Donc, l'esclave est un frère. Dans l'évangélisation, l'idéal de la fraternité, de la communauté, finalement, ça peut vous paraître un peu provocateur comme ça, mais je vous le jette au visage et puis vous me dites ce que vous en pensez. Eh bien, il prime sur la liberté individuelle. Eh bien oui, la communauté, c'est plus important que la liberté individuelle. On a aussi le cas de cette sainte, dont j'ai oublié le nom, mon Dieu, j'ai honte, très connue en plus, qui a sainte martyre de l'Afrique romaine. Si vous êtes habile, vous voyez dans mes lunettes que je vérifie mes sources sur Wikipédia. Je crois que c'est Perpétue, qui est catéchumène, et je crois que sa maîtresse, c'était Félicité. Il me semble. Hein. Bref, donc Félicité, propriétaire d'esclaves, en fait, elle baptise, elle demande le baptême de tous ses esclaves, de toute sa famille. Hein. Bon, je pense que. Donc, alors on peut dire oui, non, mais d'accord, mais en fait, tous les esclaves de Félicité étaient peut-être d'accord pour être baptisés. En fait, on n'en saura jamais rien. Et dans les premiers temps d'évangélisation, jusque sous Charlemagne et au-delà, vous allez voir que liberté et contrainte, c'est pas facile de les séparer. Hein. Ça va ensemble. Hein. Quand votre maîtresse vous demande d'être baptisé, que vous êtes esclave, peut-être que vous êtes convaincu déjà, mais enfin, bon, vous vous dites déjà que dire non, c'est un peu compliqué. Oui, mais voilà le modèle qui nous est donné par l'Église catholique. Donc, ça nous, ça, j'ai pas toutes les réponses là-dessus, mais ça nous amène à réfléchir et à nous faire comprendre que la réalité, c'est pas blanc ou noir, parfois il y a des zones de gris aussi. Donc, les chrétiens vont s'aimer dans la société romaine à tous les niveaux de cette société, ils travaillent, ils sont réputés pour leur qualité d'artisan et autres, mais ils vont rester très minoritaires, hein. Jusqu'au 4e siècle, jusque vers 310, 315 et un peu au-delà, ils sont 5% de toute la population romaine. Ça, bon, c'est un chiffre qui est très facile, hein, qui ressort dans toutes les histoires de l'Église. Moi, je le tire entre autres de cet ouvrage, hop là, Comment notre monde est devenu chrétien, de Marie-Françoise Ballé. Bon, en vrai, ce bouquin est un petit peu chiant. Je l'ai lu pour vous faire la conférence, mais je ne vous recommande pas de l'acheter. Mais je cite mes sources. Voilà, donc en environ 5% de chrétiens, c'est rien du tout. Oui, mais ils sont partout. Ils sont dans toutes les villes et ils sont à tous les étages de la société. C'est ça qui caractérise la présence chrétienne dans l'Empire romain. Ils sont partout. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils sont partout. Ça
Excusez-moi,
doit nous faire réfléchir. Oui.
est-ce que vous pouvez redire la date, s'il vous plaît?
Jusqu'au 4e siècle, jusqu'en 311, 313, c'est l'édit de Milan, c'est quand on
Okay.
autorise le christianisme, les chrétiens sont 5% de la population de l'Empire.
Ok, merci beaucoup.
Alors, évidemment, les chrétiens prennent de l'importance, donc on commence à leur reprocher des choses. Alors là, ça devient intéressant, parce qu'on rentre dans le débat. Les chrétiens, là, ils vont commencer à débattre avec des penseurs, avec des philosophes. Et alors, Tertullien, un avocat du 3e siècle, il me semble, leur répond. Alors c'est une lettre magnifique, hein, elle est citée par Don Gérard dans Demain la chrétienté. Nous ne sommes pas étrangers à la vie. Mais ça, je pense que vous l'avez tous déjà dit à quelqu'un qui vous demande mais pourquoi tu bois pas jusqu'à plus soif, pourquoi tu restes pas avec nous en boîte de nuit, pourquoi tu vas pas voir tel garçon, telle fille, machin, etc. Ben, je pense que vous avez tous déjà été plus ou moins confrontés à ça. Eh bien, nous ne sommes pas étrangers à la vie. Nous nous rappelons nos devoirs de reconnaissance envers Dieu. Nous ne rejetons aucun fruit de ses œuvres. Le bon vin, la bonne chère, la fête, le théâtre, le sport. Mais nous modérons leur usage pour ne pas en user avec mal ou excès. Pour ne pas en user avec mal ou excès. Si Tertullien, un chrétien, peut dire ça aux païens, c'est qu'il y a déjà une base de discussion en fait réelle. Ça veut dire que les païens peuvent entendre ce discours. En fait, donc ça révèle quelque chose. Ça révèle le niveau intellectuel, le niveau culturel très haut de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'ils ont ils peuvent déjà, les païens, comprendre la conception chrétienne du bien et du mal. Ils peuvent comprendre l'idée de mesure et donc l'idée de démesure. Vous savez que le plus grand péché pour les païens, c'était la démesure. C'est l'équivalent un peu laïque, païen, de l'orgueil, quoi. L'hubris, voilà, l'hubris. Donc, comme vous, nous n'habitons pas sans place publique. Sans marché, sans bain, donc ils allaient au terme, hein, ils allaient à la piscine, entre guillemets, les chrétiens comme les païens. Nous ne vivons pas sans maison, sans boutique, sans écurie. Comme vous, nous naviguons, nous faisons la guerre. C'est vachement important. Tertullien dit, comme vous, nous faisons la guerre. Donc il n'y a aucun problème avec la guerre, hein, du point de vue chrétien, évidemment. Nous cultivons les champs et nous faisons du commerce, si bien que nous pratiquons des échanges avec vous. Parfois, on dirait qu'il parle un peu à des enfants. Il leur rappelle que, oh, c'est moi qui t'ai vendu une jarre de vin sur le marché à Lugdunum la semaine dernière. Et tu vois que notre échange s'est bien passé. Donc, ne me prends pas pour un fou. Comment pourrions-nous être inutiles à vos affaires, inutiles dans la cité, alors que nous y sommes déjà mêlés et que nous vivons déjà avec vous? Là, je vous ai fait un abrégé, hein, mais cherchez sur Internet la lettre de Tertullien. Moi, je trouve ça très touchant. Voilà. Alors pourquoi il dit ça, Tertullien? Parce qu'on est dans une société païenne, donc superstitieuse. Ça veut dire qu'il y a une épidémie, il y a une défaite militaire. Il y a l'empereur qui rate une marche et qui se casse la tête et qui meurt. Boum! On met ça sur le dos des chrétiens. On met ça sur le dos des chrétiens parce qu'ils ne prient pas les dieux. Pourquoi? Parce que la religion et la politique, c'est exactement la même chose pour les païens. Il n'y a pas de distinction entre ce qui revient à Dieu et ce qui revient à César. Mais c'est normal, hein, c'est le modèle antique traditionnel. Les dieux sont les auteurs de tout. Donc tout leur appartient. C'est une idée qui, en soi, est légitime. Mais bon, voilà, le Christ est venu pour apporter autre chose. Et donc, si on ne prie pas les dieux, eh bien, ils cessent de nous récompenser et donc ils nous envoient des épidémies. Donc c'est la faute des chrétiens parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, parce qu'ils représentent une proportion de plus en plus grande de citoyens dans les villes qui ne prient pas les dieux. C'est à cause d'eux qu'on a le châtiment des dieux. Ah ben ça, c'est le gros enjeu, hein, de la discussion entre les chrétiens et les païens. Il va falloir répondre à ça. Et donc les chrétiens, eux, ils vont montrer à quel point ils sont utiles à la cité. Ils vont montrer, comme Saint Paul, qu'ils sont de bons citoyens. Mais un bon citoyen, c'est pas juste un citoyen qui obéit, parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, hein. Il y a des choses auxquelles on peut pas obéir. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard. Là, il veut leur montrer qu'ils sont pas uniquement utiles comme des moutons passifs qui obéissent. Non, ils sont utiles parce qu'ils vivent en toute chose, cette citoyenneté. Voilà, ils travaillent, ils font du commerce, ils sont paysans, ils font la guerre, etc., etc. Le christianisme, c'était donc, comme je vous l'ai dit, une religion de petits groupes. Ça c'est important. Je le tire aussi du bouquin de Marie-Françoise Ballé. Elle rappelle que à chaque fois dans les persécutions, à part bon, dans certains cas très particuliers mais très rares, on arrête des groupes de 6, de 8 personnes. Rarement on arrête des groupes de 20 personnes. C'est des petites communautés qui sont ciblées parce que le christianisme reste une religion extrêmement communautaire. Donc les chrétiens sont une minorité agissante. D'ailleurs, les majorités ne font jamais l'histoire. C'est pas une majorité des Français qui a voté pour décapiter le roi en 1793, hein, vous vous en doutez. Les majorités subissent l'histoire, mais de temps en temps, il y a des minorités résolues, des minorités courageuses qui saisissent le taureau de l'histoire par les cornes et qui arrivent à lui donner une direction. Ben, c'est ce qu'ont fait les chrétiens. Mais pour donner une direction à l'histoire, il faut se faire voir. Quand on est minoritaire, il faut se faire voir, il faut se faire entendre. Comment on se fait voir? On se fait voir par l'entraide. Alors là, c'est très intéressant. En 251, vous avez une épidémie de peste qui touche l'Italie et qui donne l'occasion aux chrétiens de se faire voir. Donc je vous cite Marie-Françoise Ballé. Lors de l'épidémie, beaucoup de chrétiens trouvèrent la mort en visitant les malades. Eh oui, parce qu'en fait, à l'époque, on ne laissait pas mourir les vieux dans des EHPAD parce qu'ils avaient une maladie imaginaire. Non, non, en fait, on allait s'occuper des malades. On allait leur apporter la communion même quand ils étaient au bord de la mort. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait pendant le Covid, quoi. En fait, les chrétiens, ils sont allés mourir avec les pestiférés. Ils sont allés risquer la mort avec les lépreux. Et ils n'ont pas dit non, non, attends, geste barrière, je reste chez moi et toi, tu te débrouilles. Non, c'est pas ça l'entraide chrétienne. Et donc ça, c'est très, très beau. Et dans toutes les périodes de peste, plus tard dans l'histoire, on verra des chrétiens mourir en donnant l'extrême onction aux fidèles. C'est ça, c'est le sacrifice ultime, c'est fabuleux. Beaucoup de chrétiens trouvèrent la mort en visitant les malades, en faisant la toilette mortuaire. Donc, vous voyez que le chrétien, c'est encore un homme de rituel. Il n'est pas là juste pour convertir dans un but utilitaire, comme des espèces d'évangélistes à l'américaine. Allez, viens, on t'amène au concert de machin, et puis tu vas voir l'Esprit Saint descendre sur toi. Ça y est, t'es de chez nous, t'es dans notre communauté, tu es des nôtres. Non, et ça va plus loin que ça. Il s'occupe des morts, et il s'occupe de tous les morts. Le chrétien, c'est l'homme qui respecte les morts. Et donc, ils vont laver les morts de l'épidémie. Mais vous imaginez à quel point ils devaient passer pour des malades. Ils lavaient les lépreux, ils lavaient les pestiférés, ils faisaient leur toilette mortuaire, ils préparaient les tombeaux. Ah, c'est incroyable. Ils ensevelissaient donc eux-mêmes les morts. Et alors ça a donné d'ailleurs les confréries de pénitents. Vous savez, les chapeaux pointus, on le voit plus trop enfin, on le voit un peu chez moi en Provence, à Nice, dans le sud-ouest, je ne sais pas où vous habitez, mais il y a des confréries de pénitents qui sont les héritiers des premiers chrétiens et qui s'occupent notamment de ce genre de choses encore aujourd'hui. Ils ont des cagoules en signe d'humilité et d'anonymat. Ça se voit beaucoup en Corse. On chassait. Pardon, voilà, donc il faisait la toilette mortuaire, mais la conduite des non-chrétiens était tout le contraire. Alors là, par contre, c'est Denis, historien chrétien, qui écrit: la conduite des non-chrétiens, c'était tout le contraire. On chassait ceux qui commençaient à être malades, on jetait dans les rues des gens à demi-mort, on mettait au rebut des cadavres sans sépulture, on se détournait de la transmission et du contact de la mort. Vous voyez à quel point pendant le Covid, on est revenu à un état de civilisation païen. On méprise nos anciens, on méprise les malades, on méprise les morts. Le modèle chrétien, c'est l'inverse. On y va. Voilà, c'est là le véritable témoignage chrétien qui ne cède rien au martyr. Eh oui, il y a le martyr et il y a l'entraide. C'est les deux piliers de l'évangélisation. L'évangélisation par l'exemple. C'est aussi d'ailleurs ce que dit Don Bosco. L'éducation, le modèle parfait de l'éducation, c'est par l'exemple, c'est l'exemplarité. Alors, à partir du milieu du 2e siècle, on voit des milieux du 10e siècle, déjà entre 101 et 200, c'est très court hein, quand même, hein, moins d'un siècle après notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des conversions de philosophes païens, donc des gens qui font partie de l'élite. Hein. Ils commencent à se convertir. Donc, en fait, ça va assez vite quand même, l'évangélisation. Ça ne va pas vite en quantité, ça va vite en qualité. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont partout. Des philosophes se convertissent. Donc, preuve que les chrétiens sont intégrés au point de pouvoir discuter d'égal à égal avec les élites de la société romaine. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rencontrent dans des salons, ils parlent ensemble. C'est normal de parler avec un chrétien. Ils sont totalement intégrés dans la société. Alors, avec au milieu des vagues de persécution atroces. Mais à chaque fois, les chrétiens reviennent dans les salons philosophiques et parlent avec les philosophes. Donc, on a deux modes d'évangélisation. L'évangélisation par le courage des martyrs, et puis par le courage, évidemment, dans l'entraide, et puis l'évangélisation par les chrétiens ordinaires, par la pensée, par la discussion, etc. Voilà. Alors, il est 21h déjà quand même. Hein. J'aurais d'autres choses à vous dire là-dessus. Je ne pensais pas avoir assez à vous dire, mais en fait, ça va super vite. Ça, c'est excellent. Ça peut être lu par des enfants d'un certain âge, mais ça peut être lu par des adultes. Moi, je me suis régalé à lire ça. Hop là, petite histoire de l'Église, Francine B. BAY. Bon, je suis pas d'accord avec tout. Enfin, historiquement, il n'y a rien à jeter. Après, je suis pas historien non plus. Hein. Mais il y a certaines interprétations, je suis pas tout à fait d'accord. Je la trouve un peu rude avec la façon dont on a évangélisé les Indiens, mais ça, c'est mon dada. Je vous en reparlerai dans 2 mois, je crois. Voilà. Alors, quand même, le courage, parce que ça, il faut quand même que je vous le cite. Hein. Les chrétiens sont courageux, ce n'est pas des gens qui se cachent. Hein. Nous, on est content quand on fait un signe de croix ou un chapelet dans le bus, on a l'impression qu'on est super courageux. Mais enfin, je peux vous dire que les premiers chrétiens, c'était autre chose. Hein. Et je m'inclus dans le lot, hein, évidemment. Saint Tarcisius, il est chargé de porter l'Eucharistie à des chrétiens emprisonnés. En chemin, il est assailli par une bande de racailles qui voulait savoir ce qui. Bon, ce n'est pas Francine B qui dit les racailles, hein, mais enfin, bon. Par une bande de racailles qui veut savoir ce qu'il cache contre lui. Tarcisius ne cède pas aux menaces, il meurt lapidé juste pour pas avoir à ouvrir son manteau et garder bah, le Saint-Sacrement contre lui. Voilà, ça c'est quand même incroyable. Voilà, Saint Laurent qui est qui est arrêté, qui est prié de livrer les trésors de l'Église. Les païens, vous voyez, ne pensent qu'à l'argent. Et il dit, mais voilà les trésors de l'Église. Et il montre les pauvres de la paroisse. Il est brûlé sur un grill, vous savez, et puis il est nu, il est jeté sur un grill, il est brûlé, puis à un moment donné, il dit au bourreau, ça va, maintenant je suis à point, tu peux me retourner et me mettre de l'autre côté. Vous voyez que le martyr chrétien, il a de l'humour aussi, même dans des situations absolument tragiques. C'est génial. Voilà. Bon, il y en a plein comme ça. Hein. Alors, j'aimerais vous en citer un dernier. Valens, l'empereur romain. Je crois que c'était l'empereur romain d'Orient à cette époque. L'empire était partagé en deux. Dit à un évêque, c'était lequel? C'est Saint Athanase. Non, n'importe quoi, c'est Basile. Basile qui combat l'arianisme, vous savez, la croyance hérétique selon laquelle Jésus n'est pas Dieu. Et Valens, parce qu'à l'époque, l'Empire romain était acquis à l'arianisme. Eh oui, l'Empire romain s'est converti, est rentré dans l'hérésie, en est ressorti, c'est compliqué. Et Valens dit, parce que en fait l'évêque, voilà, Basile ne veut pas changer sa position sur les Ariens, jamais je n'ai rencontré autant d'audace. Et Basile lui répond, bah, c'est sans doute parce que tu n'as jamais rencontré d'évêque. Boum, tu n'as jamais rencontré d'évêque. Voilà ce que c'est le vrai courage. Voilà, il y en a plein comme ça. Il y a Saint Athanase ou encore un autre évêque aussi qui refuse l'accès à l'Église à Théodose, un empereur du 5e siècle dont je vais vous parler, là aussi parce que je crois qu'il soutient l'arianisme, et en fait, Saint Athanase lui refuse l'accès à l'église pendant la messe. Il dit la messe, il sort de l'autel, il dit tu rentres pas. Vous imaginez si nos gouvernants avaient la moitié de son courage-là, par exemple, ils ne donneraient pas normalement la communion à des gens qui maintiennent l'avortement, qui le promeuvent et qui le défendent dans la Constitution. Mais, hein, moi, je vois très mal l'évêque de Paris refuser la communion à Emmanuel Macron, malheureusement. Je pense qu'il n'a pas ce courage-là. L'un des actes de courage, quand même, du pape François au début de son pontificat, c'était d'excommunier la mafia. Mais enfin, les promoteurs de l'avortement, pour moi, c'est la pire des mafias. Ils font beaucoup plus de morts. Hein. Il y a près de 6 millions de victimes depuis 40 ans. Près de 6 millions. Hein. C'est le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité, l'avortement. Voilà. Donc, Saint Athanase, il nous donne l'exemple. Donc, le courage des évêques aussi. Ce sont les mêmes évêques qui, au 5e siècle, pendant la chute de l'Empire romain, vont se mettre devant les cités et dire aux barbares, non, tu passes pas. Ici, c'est une cité sainte. C'est une cité de chrétiens. Incroyable. L'évêque de Poitiers, bon, ben, Saint Léon le Grand, en 451, face à Attila, Sainte-Geneviève, qui dit aux Parisiens, bon, puisque les hommes sont des femmelettes et qu'ils ne sont pas capables de prendre des armes contre les uns, nous au moins les femmes, on va prier. Boum, ben, je peux vous dire que les hommes, ils ont été piqués dans leur orgueil, qu'ils ont commencé à s'armer, mais Sainte-Geneviève a été exaucée et les barbares ont tracé leur route et ont évité Paris. Bon, là, j'ai fait un saut aussi au 5e siècle, c'était un peu rapide. Je reviens à ce que je voulais vous dire. On arrive au 4e siècle, on arrive quasiment à ma conclusion. Courage. En 311, Constantin met une rouste monumentale à un usurpateur, Maxence, sur le pont Milvius, à Rome ou à l'entrée de Rome. Ça, c'est la bataille du pont Milvius, 311, quelques jours avant. Je veux dire le Christ, enfin, dans la nuit, Constantin a eu un songe. Il a vu le chrisme. Vous savez, le qui, c'est en forme de X. C'est la lettre grecque qui permet de. Première lettre du mot Christ en grec, le qui, rho, en forme de P, et alpha et oméga. Et en fait, cela apparaît en songe à Constantin. Et il entend la voix de Dieu, tu peindras. Comme Marguerite Marie à la coque au XVIIe siècle, hein, le Sacré-Cœur sur les drapeaux des soldats de Louis XIII. Hein. Il entend la voix de Dieu, tu peindras, tu mettras ce signe sur les boucliers, sur les étendards de tes soldats. C'est ce que fait Constantin. Il se soumet à la volonté de Dieu. Il est encore païen. Hein. Il est encore païen, mais il se soumet. Et donc, il remporte la victoire. 2 ans après, Édit de Milan, ça y est, les chrétiens sont libres. Les chrétiens sont libérés. Attention, l'Empire romain ne devient pas chrétien. Il ne fait qu'instaurer la liberté religieuse. Hein. Alors, liberté religieuse, vous allez voir qu'il n'y a pas égalité totale quand même. Constantin va se faire chrétien et va de plus en plus favoriser les chrétiens. Il choisit, un, de se convertir, enfin, un, d'autoriser le christianisme, deux, de se convertir en même temps, alors que les chrétiens ne sont que 5% de la population romaine. Son successeur, Julien l'Apostat, il s'appelle Apostat parce qu'il a été élevé dans le christianisme, il va essayer de rétablir le paganisme. Donc, il y aura des réactions païennes après Constantin. Donc, la bataille n'est pas gagnée. C'est quand même un pari incroyable, hein. 5% de la population romaine, ce n'est rien. Et oui, mais les chrétiens sont partout. La qualité, pas la quantité. Je vous cite un ouvrage aussi fondamental. Il est où? Roberto de Mattei, L'Église dans la tourmente. Vous le savez, aujourd'hui, l'Église est dans la tourmente. C'est pour ça que Roberto de Mattei nous dit, courage, l'Église a été dans la tourmente pendant 1000 ans, on a déjà connu ça, on va s'en sortir. Et donc, Roberto de Mattei, il parle de Constantin. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit, bon, je vous ai déjà parlé du songe. L'année suivante, en 313, avec l'édit de Milan, Constantin donne toute la liberté aux chrétiens. Ils ne sont plus persécutés. Ils peuvent marcher dans la tête haute dans les rues. Ils peuvent construire des églises. Ils peuvent célébrer solennellement, c'est-à-dire en public, avec le maximum de beauté dans le culte, la messe. Ils peuvent ouvrir des écoles, des hôpitaux, des établissements de soins pour les personnes âgées. Alors, ils le faisaient jusque-là de manière un peu clandestine, quoi. Dans des locaux, des arrière-boutiques. Bon, voilà. Là, ils le font, avec le soutien de l'empereur. Ils sont autorisés à occuper des fonctions dans l'armée. Ça y est, il y a des généraux romains chrétiens. Vous vous rendez compte, mais en quelques années, des gens qui font partie de 5% de la population deviennent généraux de la meilleure armée du monde. Dans la magistrature, au Sénat, il y a des chrétiens sénateurs. Les chrétiens font les lois. Ils ont une autorité politique. Et donc, ils peuvent christianiser la société. De païenne, la faire chrétienne et insuffler le souffle vivifiant de la bonne nouvelle dans le corps malade, et oui, parce que l'Empire était malade hein, quand même, hein, dans le corps malade d'un empire moribond. Voilà où je voulais en venir depuis le début. Il fallait toucher les cœurs. Maintenant, pour le christianisme se répandre, eh bien, il faut faire de la politique. Les chrétiens commencent à faire de la politique. Ils s'engagent, ils prennent des décisions. Et Constantin va faire entrer petit à petit le christianisme dans les mœurs. Il privilégie le christianisme. Par exemple, en 321, qu'est-ce qu'il fait? Il instaure le jour du Seigneur. L'expression même jour du Seigneur, ça date de là. Ça date du 4e siècle. C'est le dimanche. Le dimanche est férié à partir de Constantin. Ça, il a bien fallu qu'un pouvoir politique l'impose. C'était obligatoire. En fait, on n'allait pas attendre que 100% des Romains deviennent chrétiens. Parce que, je vous l'ai dit, il y a eu des phases de persécution après Constantin. Donc, il a fallu très vite mettre en place quelque chose. Je vous donne un autre exemple pour vous montrer à quel point c'est important le pouvoir bien utilisé. Demain, vous voulez organiser un festival chrétien dans une ville, vous avez intérêt à ce que la mairie autorise votre festival. Vous avez intérêt à avoir les autorités locales dans votre poche. Ben oui, en fait, il faut qu'on soit partout, hein. Voilà. Bon, c'est pas une conférence sur l'engagement politique. Alors, je reviens à l'évangélisation. Très important, Constantin donne au christianisme le statut de religion. Le mot religion, ça veut dire quelque chose dans le monde païen. C'est pas juste une spiritualité, un truc auquel on croit. Non, c'est religere ou religere, pardon. Je suis pas un très bon latiniste. Ça veut dire relier. Donc, ça veut dire qu'il donne au christianisme un statut officiel de communauté qui est reconnu. Et donc qui peut jouir entre guillemets de subventions de la part du pouvoir impérial. Et donc, alors attention, les autres cultes, les autres religions ne sont pas interdites. Le christianisme est égal aux autres. Mais il y a également des privilèges, des exemptions d'impôts qui sont accordés au clergé. Et alors, on en arrive à ce brave Théodose qui se fait tirer les oreilles par... Ben, je vous poserai la question, hein, ça fait partie des trois questions. Qui a tiré les oreilles à Théodose? Voilà, on verra si vous en souvenez, si vous avez bien écouté ma conférence. Quel grand saint a tiré les oreilles à Théodose? Alors, Daniel Rops, ça c'est excellent aussi, Histoire de l'Église. Voici ce qu'écrit Daniel Rops. Le paganisme, le christianisme assurait sa domination. Le paganisme était devenu l'ennemi public. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est simple, Théodose va interdire le paganisme. On est en 380, il interdit le paganisme, il fait du christianisme la religion officielle. Énorme tournant, deuxième énorme tournant. Le paganisme, donc, ne poursuivra qu'une existence larvée, misérable, dans les profondeurs de l'âme paysanne, d'où la patience des missionnaires l'extirpera peu à peu. L'Église, elle, est favorisée. Elle est au-dessus du droit commun par maints privilèges fiscaux et judiciaires. Ça veut dire qu'un chrétien, enfin un évêque, par exemple, il jouit d'une sorte d'immunité judiciaire. Il n'est pas jugé comme quelqu'un d'autre. Les clercs, même subalternes, même un petit diacre, ben, il ne paye pas d'impôts. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Théodose, il va vraiment se mettre au service de l'Église. Comment? Par des lois très concrètes. Voilà. Un, il introduit dans le droit, dans la justice, dans les lois, des principes évangéliques. Parce qu'en fait, pour faire des chrétiens, bah, il faut faire une société chrétienne. Un chrétien tout seul, c'est un chrétien en danger. Il interdit la délation. Bah, ça, c'est pas mal quand même. Vous voyez, donc pendant le Covid, vous voyez, on n'a pas été. La délation, c'était la règle. Bon, ben en fait, pour Théodose, c'était pas chrétien de dénoncer son voisin. Donc, un, on interdit la délation. Deux, on interdit la diffamation. On interdit la diffamation. Donc, la calomnie, ça devient un délit, la calomnie. Pour nous, c'est un péché. Pour les Romains de cette époque, c'était un péché et un délit. Deux, on interdit l'usure. Vous savez, l'usure, c'est. Un banquier ou un créancier qui va imposer des taux d'intérêt. Vous allez contracter un prêt chez une banque pour acheter une maison, et vous allez payer chaque mois ou chaque année 2% du prêt. Si on vous donne 100 000 euros pour acheter une maison, tous les mois, vous allez payer 2% de 100 000 euros en plus de 200 000 euros pour que le banquier puisse vivre. Sinon, vous rendez 100 000 euros contre 100 000 euros. Bon, pardon si d'habitude, j'ai des élèves de 9 et 10 ans, alors peut-être que je suis un peu simpliste, mais vous devez connaître déjà tout ça. Il interdit l'usure, donc des taux d'intérêt abusifs. Il prend des lois contre le trafic des enfants abandonnés. Ça montre quand même que la société romaine était vachement décadente, quoi. On trafiquait et il y a des enfants abandonnés qui devaient servir d'esclaves, etc. Il interdit l'adultère. Ça y est, l'adultère est un délit. Bon, c'est pas mal. Bon, il interdit d'autres vices contre nature, etc. Donc, la société romaine était en train de s'effondrer parce que le paganisme était en crise, parce que les Romains ne croyaient plus en rien, même s'ils n'étaient pas tous chrétiens, évidemment. Ils étaient même encore une très grande majorité, encore sous Théodose, à être païens. Hein. Parce que je vous rappelle que 60 ans avant, enfin 70 ans avant, il n'y avait encore que 5% dans l'Empire romain. Donc je pense qu'en 70 ans, le nombre a peut-être été doublé, triplé, quadruplé, peut-être, mais enfin, ça reste rien, quoi. Mais j'insiste là-dessus, les chrétiens prennent les villes. Donc les chrétiens, ils prennent les postes de pouvoir. Le paganisme va se réfugier chez les paysans. Ça ne veut pas dire que les missionnaires méprisaient les paysans, mais simplement qu'il faut conquérir le pouvoir pour que la société soit chrétienne durablement. Voilà, Théodose, c'est la fin de l'Empire romain. Donc, on en a fini. Un dernier exemple, quand même. Alors là, on passe totalement à autre chose. J'aimerais vous citer tout simplement le cas de Saint-Martin. Voilà, vous savez que c'est l'un des saints patrons de la France. Saint-Martin, c'est quand même quelqu'un qui avait assez peu de respect pour la liberté religieuse. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait notre brave soldat romain Saint-Martin? Ben, il fracassait les sanctuaires païens, il détruisait des idoles, il détruisait des temples et il les remplaçait par des églises chrétiennes. Pourquoi? Parce que dans les sociétés paysannes d'alors, qui étaient très marquées par la superstition et qui interprétaient les malheurs de la vie comme une conséquence de l'abandon des dieux, ben, il fallait frapper les imaginations et montrer à ces païens qu'on pouvait détruire une idole, on pouvait détruire un temple, et que la foudre n'allait pas les châtier sur place, n'allait pas détruire leur vie. Et en faisant cela, Saint-Martin n'a pas été pris d'un délire mégalomaniaque d'imposer ou de convertir par la force. Non, très très important, là aussi, il faut lire Demain la chrétienté de Don Gérard. Il y a une très grande différence entre essayer de convertir par la force et extirper le mal, chasser le mal de la société pour qu'il ne contamine plus les âmes. Ça doit se faire par des moyens violents. C'est ce que les chrétiens ont fait de tout temps. Enfin, des moyens violents, des moyens de contrainte. Hein. Quand je dis violent, je veux dire utiliser la force. Je ne veux pas dire de frapper des païens dans la rue ou on n'agresse pas des personnes, hein, évidemment. Mais d'éliminer le mal, de montrer à des esprits embués dans la superstition qu'ils n'ont rien à craindre de ces faux dieux. Et je vais vous le prouver, c'est Saint-Martin qui parle, il fracasse les temples. Charlemagne fera la même chose, mais cela, je le réserve pour dans 3 semaines, je crois. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Promis, j'essaierai d'être bref. Ok, très bien. Alors, moi, je vous pose vos questions pour... Oui, je vous écoute, pardon.
Par rapport à Saint-Martin, est-ce que vous pouvez redire son siècle, s'il vous plaît?
Oui, c'est le 4e siècle.
D'accord, merci
C'est
beaucoup.
Saint-Martin de Tours, hein. Donc c'est le 4e siècle. J'avais quelque chose à vous citer sur Saint-Martin, mais je ne le retrouve pas. Ah oui, Saint-Martin. Un autre jour, alors c'est des témoignages tirés de la vie de Saint-Martin. Qui en est l'auteur? Je vais retrouver ça. Je vous l'enverrai. Un autre jour, en certains villages, il avait détruit un temple fort ancien et entrepris d'abattre un pin, un arbre, tout proche du sanctuaire. Mais alors le prêtre de ces lieux et toute la foule des païens commencèrent à lui opposer de la résistance. Non, non, parce qu'ils avaient des totems, les païens, comme les Indiens. Il avait mis le feu en certains villages, en sanctuaires païens tout à fait anciens et très fréquentés. Enfin, Saint-Martin, quand même, c'est pas rigolo, quoi. Il brûle les sanctuaires païens. Non, mais enfin, vous vous rendez compte quand même? Le mec est quand même sérieux. Enfin, pardon. Dans un autre village du nom de Levroux, Martin voulut démolir également un temple que la fausse religion avait comblé de richesses. Donc, ça veut dire qu'il s'attaque à des lieux qui sont priés encore, qui font l'objet d'une très grande dévotion chez les paysans. Enfin, dans le monde rural qui était encore païen. Mais la foule des païens s'y opposa tant et si bien qu'il fut repoussé, non sans violence. Alors, cette violence, elle a continué. Hein. Voilà. Et ça allait. Très très loin. Bon, enfin voilà, ça c'est. Je vous en reparlerai la prochaine fois, mais c'est très important. Bon, je vous en parlerai la prochaine fois, je ne vais pas m'avancer plus, parce que ça sera quand même le gros de ma prochaine intervention. Voilà, je vous écoute si vous avez des questions.
Bah, merci beaucoup, monsieur.
De rien. Donc Saint-Martin, oui, c'est 316-397. Voilà, 316-397, donc 4e siècle. Alors, je vous pose mes trois questions. Non, mais on abandonne la question sur le saint qui a envoyé une punchline dans les dents de l'empereur, parce qu'en fait, c'est trop facile de regarder la vidéo pour trouver le nom. Donc, je vais vous poser trois autres questions. Alors, je n'avais pas préparé ça. Donnez-moi 30 secondes. Quel est. Bah en fait, voilà, je vais pas vous poser une question. Je vais vous demander de faire une recherche dans l'évangile. Citez-moi, s'il vous plaît, dans l'évangile pour la prochaine fois, au moins deux scènes de l'évangile où notre Seigneur évangélise par le rite, par des gestes qu'il n'a pas besoin de réaliser pour guérir une personne ou pour la convertir. Voilà, citez-moi deux passages de l'évangile. Où Jésus fait quelque chose, un petit peu comme il fait avec le sourd-muet, pour un geste, n'importe quoi, mais voilà. Puis ça vous fait un peu, ça vous fait un peu de lectio divina, c'est pas mal. Donc voilà, deux gestes rituels de Jésus pour obtenir, pour réaliser un miracle. Donc ça, c'est ma première suggestion. Enfin, c'est pas une suggestion, c'est une consigne que je reçois du PFS, donc je vous la transmets. Deuxième question. Combien il y avait de chrétiens dans l'Empire romain en 313? Trop facile. Combien il y avait de chrétiens dans l'Empire romain en 313, donc à l'époque de l'édit de Milan. Et enfin, troisième question, quels sont les deux grands moyens, ou trois, utilisés par les chrétiens pour évangéliser les païens dans l'Empire romain? Donc, un, citez-moi deux scènes de l'Évangile où le Christ utilise des formules, des gestes, bref, des rites pour réaliser un miracle. Deux, combien il y a de chrétiens dans l'Empire romain en 313 au temps de l'édit de Milan. Et trois, vous voyez, quels sont les moyens des chrétiens pour évangéliser les païens dans l'Empire romain? Est-ce que vous avez besoin de précision ou est-ce que tout est clair?
Non, c'est
Non,
très
ça va.
clair.
Super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Dieu vous garde.
Merci à vous.
Merci, vous aussi.
Merci
À
beaucoup.
bientôt.
Merci beaucoup. Pareil.
Merci beaucoup,
Monsieur.
monsieur. À bientôt.
Monsieur, à
Merci.
bientôt. Non.
Ça va, Nico?
Moi, ça va. Je dois aller chercher quelqu'un à la gare maintenant, dans le froid.
Ouais.
Mais je suis content, ça a fini au bon horaire. C'est bien.
Ouais. C'était dense en vrai son truc. Hein.
Oui,
Il parle hyper
j'ai noté des choses. Bon, voilà.
vite. Bien.
Bon, les questions un peu trop faciles, un peu trop faciles des
C'est
questions.
clair.
Parce que bon, les rites, bon, voilà, j'ai déjà des idées, quoi.
Après, les recherches de l'évangile, en fait,
Oui,
tu
tu
peux
peux aller
trouver
sur les
d'autres
documents
choses que...
ecclésiaux, quoi, mais bon, voilà, le serviteur du soldat romain et la scène,
Mais
quoi.
creuse-toi
Voilà.
les méninges, trouve d'autres choses.
Oui. Je vais essayer, alors. Je vais essayer. Je vais essayer.
Allez, courage.
Allez.
Bon, au revoir les filles.
Au revoir.
Au revoir les
Moi aussi, je dis au revoir. Merci. Bon, allez, ciao.